tous les soirs.
21h minuit, Cyrano.
Bob vous dit toute la vérité.
Je le dis, je le répète, cette émission n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Il est 21h02, cette fois on y est, direction Livre de l'étrange pour de nouvelles aventures. 23h, libre antenne, paranormal. Si vous avez vécu des choses inexpliquées, 36-28, vous dites ado, et grâce à Brigitte Retz, une médium, vous pourrez comprendre ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Puis surtout, c'est un témoignage troublant et émouvant qu'elle nous apportera. Vous serez, j'en suis sûr, scotché une nouvelle fois. 22h, Thierry Jamin me permettra de vous dire toute la vérité sur le trésor des Incas. Et pour commencer, Mathieu Adair de UFO Science. Salut Mathieu.
Bonsoir Bob.
Comment ça va?
Bien, et vous?
Oui, très très bien. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes membre de l'association UFO Science, technicien en aéronautique. Vous vous intéressez depuis quelques années au phénomène OVNI. Vous considérez que de tels objets peuvent avoir un intérêt dans l'aéronautique. Alors selon vous, l'ufologie devrait être basée sur l'analyse rationnelle et l'étude scientifique. Et vous vous êtes mis à chercher des informations et avez rencontré l'association UFO Science de Jean Petit en 2007. Heureux dans cette association, Mathieu?
Ah, tout à fait, oui. Bon. Car on fait des choses qui, encore actuellement, sont très peu faites dans le milieu ufologique.
Alors, on sait que vous êtes du côté de Toulouse, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Magnifique. Alors, c'est quand même le berceau de l'aéronautique. Toulouse, on ne peut pas faire mieux, surtout que là, les commandes tombent dans tous les sens. J'ai vu que des avionneurs achetaient des avions à Airbus et on est fiers, surtout que moi, je suis toulousain, donc ça fait du boulot là-bas. En tout cas, on va travailler ce soir sur un petit peu les enquêtes et surtout votre façon de travailler, vos travaux à UFO Science. Et on va commencer par ce que l'on appelle le programme Vigie. C'est quoi ça? En fait,
alors le programme Vigie, c'est lié à ce dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire la diffusion des réseaux de diffraction.
Ouais.
C'est-à-dire ce petit outil, je fais un bref rappel, le petit outil qu'on met devant l'objectif d'un appareil photo ou d'une caméra,
d'accord,
la taille d'une diapositive.
Ouais.
Vous prenez une photo d'un phénomène OVNI quand vous le voyez avec ce petit équipement, et vous avez un spectre.
D'accord.
Et de ce spectre, après analyse, il est possible de définir la composition chimique de la source, connaître sa température, et même savoir si la source lumineuse est entourée d'un champ magnétique.
Alors, si les auditeurs veulent ce petit appareil, c'est possible, c'est gratos, je crois, c'est ça?
C'est gratuit, oui. Il suffit de nous contacter via le site de notre association.
D'accord, UFO Science. Et
voilà.
Vous laissez vos coordonnées et tu envoies le truc, hein, c'est ça?
C'est ça. En fait, les gens m'écrivent. Il suffit simplement qu'ils nous envoient à l'adresse qu'on va leur indiquer une enveloppe pré-timbrée, à leur nom et leur adresse, et on leur envoie gratuitement un réseau de diffraction et le mode d'emploi.
D'accord. Et est-ce qu'on peut voir avec ce petit appareil, parce que j'imagine que un appareil aéronautique non identifié a peut-être pas la même température qu'un avion de ligne ou qu'un petit coucou, non, on peut le savoir ça?
On pourrait le savoir, oui, mais c'est à confirmer. Jusqu'ici, on n'a pas eu encore de spectre d'OVNI exploitable.
Ah ouais.
Mais effectivement, il est très facile de prendre le spectre, par exemple, d'un phare d'atterrissage d'un avion de ligne,
ouais.
De regarder sa température, sa composition chimique,
ouais,
et de le comparer au spectre d'un objet non identifié.
Ouais. Est-ce que
vous
êtes...
Donc là, on pourrait faire une comparaison.
Est-ce que vous êtes les premiers à UFO Science à utiliser justement l'aspect scientifique pour faire vos enquêtes sur les ovnis?
Alors au niveau français, au niveau associatif en France, je crois que oui, mais après, il y a quelques décennies, Internet n'existant pas, on ne peut pas vraiment savoir s'il n'y a pas eu des petites associations à droite à gauche qui se sont déjà intéressées à l'aspect scientifique.
Mm-hmm.
Par contre, en ce qui concerne les réseaux de diffraction, on sait que l'idée originale revient à l'US Air Force dans les années 50.
Ah ouais, quand même. Ah, ce sont donc les Américains qui ont commencé à être sur la voie.
Tout à fait. Ils proposaient déjà à l'époque d'observer le ciel. Alors on était en pleine guerre froide.
Ouais, ouais.
Donc c'était logique. Et ils expliquaient comment transformer certains appareils photo en véritables mini spectroscopes.
Mmh.
Et pouvoir prendre des spectres.
Mmh.
Mais par contre, il n'y a pas eu de retour là-dessus. Enfin, du moins, dans les années 70, on perd la trace de cette idée.
Mmh.
Qui plus tard sera reprise par le GEPAN.
D'accord. Oui, le GEPAN de Xavier Passot qu'on a reçu ici même. D'ailleurs, il y avait un souci avec ce petit appareil que tu mets à disposition de tout le monde. Avec le GEPAN, ils l'ont pris ce truc ou pas finalement? Tu te proposais de leur donner, non, c'est ça?
Alors, oui, c'est-à-dire que je fais juste un petit historique. En historique, en fait, je parle du GEPAN des années 70-80.
Ah, d'accord.
Celui de Claude Power, d'accord. Qui avait, lui, repris l'idée des réseaux de diffraction.
D'accord.
Et qui les avait diffusés aux gendarmeries.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on en est où ?
J'avais rencontré l'ancien directeur du GIPAN. Mm-hmm. Cette fois, c'est dommage, j'ai perdu son nom. C'est Yves Blanc. Mmh. Un repas ufologique sur Toulouse, et je lui avais demandé où en était cette histoire de réseau de diffraction. Mmh. Est-ce qu'ils avaient pour projet de les diffuser à nouveau, mmh. À quel genre de public et en quelle quantité ?
D'accord.
Et au final, la réponse a été proposez-nous votre idée, on verra ce qu'on peut faire derrière.
D'accord.
C'est-à-dire rien du tout.
ça se passe souvent comme ça. En tout cas, si vous arrivez, il est 21h08, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité.
Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité.
Alors Mathieu, on va se tutoyer parce que c'est plus facile, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, on va faire comme ça, hein. C'est plus simple. Mathieu, tu es technicien en aéronautique, est-ce que justement autour de toi, tes collègues, les gens qui bossent dans ton entourage, sont intéressés par le cas OVNI, par le cas des OVNI, et surtout est-ce qu'on te regarde avec une compassion, disons, j'ai le pauvre, il est un peu fou, il s'intéresse aux OVNI.
Mais justement, on en a parlé aujourd'hui, vu qu'ils sont au courant que je suis sur cette émission de radio.
Ah, ils écoutent tous alors.
Bonsoir.
Donc ils écoutent tous. Donc,
salut les copains.
Voilà, exactement. Donc ils viennent dire derrière que ça ne les intéresse pas vraiment, je ne croirais pas trop.
D'accord.
À mon avis, ils sont curieux.
Bon, oui, parce qu'en plus, Toulouse étant quand même une ville incroyablement attirée par l'aéronautique, mais tout le monde, hein, c'est-à-dire que moi qui suis toulousain, mes oncles, mes tantes n'ont rien à voir. Enfin, j'ai eu mon oncle qui a été dessinateur industriel. Chez Airbus, mais c'est vrai que tout le monde, c'est le pouls de la ville hein, quand même, l'aéronautique. Donc le ciel, on le scrute assez facilement et assez souvent quand même.
Et on le scrute souvent et paradoxalement, vu qu'on voit passer des avions tous les jours, mais des avions d'essai, des avions qui atterrissent et qui décollent, on ne fait pas forcément attention aux lumières dans le ciel. Hmm. C'est-à-dire, si je vois une lumière du coin de l'œil dans le ciel au loin, dans ma tête, ce sera un avion.
Et c'est ça,
alors que paradoxalement, ça pourrait être très bien un objet non identifié.
Alors justement, on va évoquer les protocoles d'intervention, les règles à suivre lorsque on est face à un atterrissage d'OVNI ou en tout cas une apparition d'OVNI.
Alors oui, en fait, comme à UFOScience, on s'intéresse à tout type de cas pour lequel il est possible de collecter des échantillons, récolter des données. Mm-hmm. On ne pouvait que s'intéresser aux cas d'atterrissage d'OVNI, du moins français.
Oui.
Qui ont eu lieu, par exemple, dans les années 80.
Ouais.
Si vous voulez, il y a trois cas qui sont assez connus, il y en a bien d'autres. On peut faire dans l'ordre, ce sera le plus simple, je vais faire un petit rappel de chacun des cas, parce qu'ils ont chacun des points communs qui nous ont intéressés, mais aussi des faiblesses qui ont fait que certains cas, finalement, ont été très mal gérés. Donc,
Très mal géré, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bons ces cas. C'est qu'en fait l'enquête n'a pas été bien menée, c'est ça.
Voilà, exactement. Okay. C'est-à-dire que les organismes qui sont occupés derrière ont fait des erreurs.
D'accord, ok.
Donc le premier cas, il va faire écho à votre invité d'hier, qui est Joël Ménard,
ouais.
Je ne me trompe pas.
De lumière et, dans la nuit.
De lumière dans la nuit, oui, tout à fait, qui avait rédigé un article sur le cas de Landévennec en 74.
Mm-hmm.
Alors en fait, au niveau du témoignage, en fait, c'est une famille qui roule sur une route qui merne vers Landévennec, vers 19h. Et là, à la sortie d'un virage, à 25 mètres de la voiture, ils observent une sorte de chapelet de sphères, ce qui sera défini comme un chapelet, de 7 ou 8 sphères disposées à l'horizontale, d'une 40 cm de diamètre, 3 mètres de long, et qui sont en lévitation à 1 mètre au-dessus de la route.
Ah oui, donc c'est pas très haut, hein. Donc, pour le coup.
Pas très haut.
Ouais.
Et qui émettent apparemment une forte lumière blanche.
D'accord.
Donc, les témoins font des appels de phare, mais ils n'auront aucune réponse. Et au final, ils feront demi-tour, ils iront directement témoigner à la gendarmerie. Le lendemain, les gendarmes font leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont sur les lieux de l'incident.
Ouais.
Et là, sur le bord de la route, ils se rendent compte que sur quelques mètres carrés, 3 mètres carrés, je crois me rappeler, les fougères qui étaient présentes sont flétries.
D'accord, ok.
Donc, ils ont l'idée de prélever ces fougères avec leurs racines.
Ouais.
et d'aller prélever des fougères qui n'ont pas été impactées par le phénomène à 5 ou 8 mètres de la zone.
Ouais.
Alors, ce qu'on appelle les plantés moyens, pour faire une comparaison plus tard. Mmh. Et ils envoient un laboratoire.
Ouais.
Et au final, les résultats, l'échantillon témoin qui était à 5 mètres de la zone affectée, présenter ce qu'on peut trouver dans des végétaux, hein, c'est-à-dire de la chlorophylle et de la résine.
Ouais.
Par contre, l'échantillon qui était dans la trace n'avait plus de chlorophylle.
Ah
donc
ouais.
Là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant qui va se retrouver dans les cas, dans d'autres cas, quelques années suivantes.
Alors, quoi qu'il en soit, on ne sait pas si c'est extraterrestre, mais en tout cas, il y a eu un phénomène, ça c'est sûr.
Voilà, c'est-à-dire que le témoin dit avoir vu un phénomène à cet endroit précis, et il se trouve qu'à cet endroit précis, les végétaux ont subi un traumatisme. Mmh. Donc le témoin n'a pas forcément à fabuler.
Mmh. Alors, c'est assez rare quand même des objets stationnaires à un mètre du sol quand même. C'est généralement, on les voit la plupart des cas, en tout cas sur tous les témoins que l'on a ici. Souvent, ils sont très hauts quand même.
Oui, oui.
Mais c'est vrai qu'on voit énormément de photos, de vidéos, donc de phénomènes assez loin. C'est vrai que les cas qui sont proches du sol, on en parle peu. Alors je ne sais pas si on en parle peu parce que c'est assez proche du témoin, le témoin n'ose pas en parler.
Ouais.
Ou alors peut-être parce que par la suite, en matière d'ufologie, peut-être que les enquêteurs ne savent pas quoi faire.
Ouais.
On ne sait pas. Mais il est vrai que c'est étrange, mais dans les années 80, les cas d'atterrissage n'étaient pas si rares que ça.
D'accord.
C'est-à-dire quelques années après, vous aviez 30 en Provence, en 81, je crois me rappeler. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé dans votre émission.
Ouais, on l'aborde très souvent, mais on n'est pas allé en profondeur sur ce cas.
D'accord, donc je vais revenir vite faire dessus.
Alors, soit quoi, Mathieu, on en parle juste après la pause, d'accord ? Trans en Provence, et puis je te poserai une question également. Est-ce qu'on a des vidéos ou des photos d'objets si près, en fait, du témoin ? On verra cela dans un instant. Mon nom est Bob, et tous les soirs, je vous dis toute la vérité sur ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Et puis surtout, encore une fois, les réseaux sociaux, eh bien, cartonnent ce soir, mon Elliot.
Eh oui, alors, vous êtes déjà beaucoup à vous parler entre vous, et vous posez aussi des questions, et notamment le cas le plus crédible sur le plan scientifique pour Mathieu.
Eh ben, on y revient dans un instant. Mathieu Adair de UFO Science est avec moi.
L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado.
Si vous avez toujours rêvé d'entendre ce qui n'a jamais été dit, eh bien, sur les phénomènes paranormaux, Big Brothers, les pyramides ou les ovnis, alors vous avez fait le bon choix. Et demain, je vous dirai toute la vérité grâce à Claude Arz sur le diable ou Lucifer ou Satan.
Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur radofm.fr.
Mathieu Adair, justement, du côté de Toulouse, est avec nous, membre de l'association UFO Science, technicien en aéronautique. Mathieu, on va aborder le cas de Trans en Provence dans une poignée de secondes. Juste, on va répondre brièvement, tu prends le temps que tu veux d'ailleurs, aux questions qui ont été posées. La première, le cas le plus crédible, on y revient peut-être dans une poignée de secondes parce que tu vas peut-être développer, mais y a-t-il des photos ou des vidéos d'objets finalement très proches, c'est, qui ont été observés, mais très très proches par les témoins?
À ma connaissance, non.
Mais c'est ça qui est derrière à chaque fois.
Voilà. À ma connaissance, non. Très franchement.
D'accord. Pourquoi on imagine que c'est la peur, les gens sont tétanisés, ou les gens... Bon, c'est vrai que dans les années 70-80, on n'avait pas forcément de téléphone portable. Ouais, ça n'existait pas d'abord. Donc, on n'avait pas forcément d'appareil photo. Mais aujourd'hui, tout le monde a ça. Et on me dit encore, Joël Ménard me disait hier, qu'il y a des apparitions aujourd'hui, et elles sont courantes, encore une fois. Et à chaque fois, soit la vidéo fonctionne pas, soit les gens n'ont pas eu le réflexe. Il y a toujours un truc qui coince. C'est un peu pour ça aussi, peut-être que on donne pas beaucoup de crédibilité au phénomène OVNI, en tout cas le grand public. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Oui, non, mais je comprends tout à fait que quand on est confronté à un phénomène qu'on ne comprend pas, qui semble spectaculaire, on soit tétanisé.
Mmh.
Ça, je comprends tout à fait.
Mmh.
Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe de sortir l'appareil photo, parce que voir le phénomène à travers un écran, c'est beaucoup moins intéressant que voir de ses propres yeux.
Ouais. Ah ben moi j'ai voulu en prendre, mais Mathieu voulait être sur la photo. Là,
c'est ça, toujours.
Il bouchait toute la juste.
Ah, non.
Hallucinant. Alors, le cas de Trans en Provence, tu voulais y revenir, Mathieu?
Oui, voilà. En plus, il correspond au cas que je trouve le plus intéressant scientifiquement par rapport à la question d'un des auditeurs de tout à l'heure.
Le cas le plus crédible, c'est ça ?
Le plus crédible parce que, parce que c'est celui sur lequel je me suis le plus intéressé. D'accord. Et parce qu'il y a eu derrière des analyses scientifiques faites par un biochimiste.
D'accord.
Okay. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup.
Mmh. Alors que s'est-il passé ? C'était à quelle période déjà ?
C'était dans les années 80, Trans-en-Provence, c'est près de Draguignan, dans le Var.
Ouais.
Là, il y avait Renato Nicolai qui travaillait dans son jardin.
Ouais.
Et puis, son attention est attirée par un bruit qu'il définissait comme un souffle de vent très fort et assez aigu.
D'accord.
Et là, il voit un objet ovoïde. Deux assiettes renversées l'une sur l'autre, d'une couleur gris plomb, de 3 mètres de diamètre environ, se poser dans son jardin,
d'accord,
rester quelques minutes et repartir. Il ne va pas témoigner de lui-même, c'est-à-dire qu'il va en parler à sa femme, et de fil en aiguille, sa femme va en parler à un voisin, et ses voisins vont contacter la gendarmerie.
D'accord, donc c'est pas lui qui décide de le faire.
Voilà, c'est pas lui qui aurait décidé de le faire, mais c'est pas un circuit parallèle. Et là, il y a la gendarmerie se rend sur les lieux, suite à l'appel donc des voisins, pour constater les faits, et découvre donc que l'engin a laissé des traces.
D'accord.
Et là, ils ont le bon réflexe, c'est-à-dire ils vont prélever des échantillons de terre et de luzerne, c'est-à-dire la végétation qui était sur place, et ils envoient à la fois au GEPAN et à un laboratoire de l'INRA. L'INRA, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Alors là, on s'aperçoit que finalement, les gendarmes connaissent le protocole, la marche à suivre.
Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir ce serait si ce genre de protocole était dans les livrets gendarmiques de l'époque.
D'accord.
Je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait de son propre chef ?
Ouais, c'est ça.
Ou est-ce qu'il suivait un protocole ? Ça, je sais pas.
Quoi qu'il en soit, le réflexe a été bon, hein, c'est ça ?
Voilà, il avait le bon réflexe. Donc là, les végétaux arrivent à l'INRA, dans les mains du docteur Michel Bougnas. Michel Bougnas, qui était un spécialiste des traumatismes végétaux, justement, dû à l'exposition au rayonnement radioactif.
Ouais, ouais.
Donc c'était vraiment la bonne personne pour prendre en charge les analyses.
Ouais.
Et là, après ses premières analyses, il est intrigué, et il demande à la gendarmerie d'effectuer d'autres prélèvements. Et là, d'autres prélèvements vont être faits, c'est-à-dire on va prendre des végétaux au centre de la trace, puis dans une direction particulière, c'est-à-dire le long de la restante, qui vont prendre des végétaux à 3, 5 et 8 mètres, si je me rappelle bien. Et ces végétaux vont être analysés de nouveau par Michel Bougnas. Et là, il va détecter des anomalies qui ne sont pas présentes dans des plans témoins, encore une fois.
D'accord. Ça ressemble un peu au cas dont tu m'as parlé tout à l'heure.
Hein. Tout à fait. C'est D'accord. pour ça qu'ils sont intéressants tous les trois, parce qu'ils ont des points communs.
D'accord.
Et il va découvrir qu'en fait, l'altération subie par les végétaux suivait une certaine loi, et cette loi était typique d'un phénomène radiatif.
D'accord.
Or, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça ne pouvait pas être de la radioactivité naturelle, parce que le taux de rayon gamma qu'il aurait fallu pour altérer de cette manière les végétaux était si énorme que tout le voisinage serait mort.
Ah ouais.
Donc là, on a quand même quelque chose qui doit laisser à réfléchir.
Alors justement, tu me tends la perche. Ça doit laisser à réfléchir. Est-ce que les autorités ont réfléchi sur ce cas-là ?
Ah ça, j'en sais rien.
Parce que moi, il y a des gendarmes qui apportent des plantes avec un taux de radioactivité incroyable qui peut pas être terrestre, puisque sinon les gens seraient morts autour. Moi, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, une enquête a été déclenchée, au moins, je sais pas moi, par les scientifiques, par l'armée et tout team, quoi ?
Alors, apparemment, non.
C'est dingue, ça.
Non, par contre, il n'avait pas un taux de radioactivité, c'est-à-dire que c'était un phénomène radiatif qui a détruit en fait les pigments photosynthétiques, c'est-à-dire la chlorophylle dont on parlait tout à l'heure, à l'intérieur des plants.
Oui, quoi qu'il en soit, c'est pas normal.
Voilà, c'est pas normal. Parce que en fait, ils ont refait des analyses un an après et ces altérations avaient disparu. Donc c'est vraiment un événement ponctuel de grande ampleur qui s'est passé là en 81.
Donc ça peut être dû à, donc, peut-être un atterrissage d'appareil et au départ de celui-ci. L'allée est venue.
Peut-être, du moins c'était ce que pensait Michel Bougnas. Pour lui, il n'avait pas d'autre explication à ce jour que le témoignage de Roberto Nicolai.
Alors Roberto, lui, il a vu ces soucoupes-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste resté en observation?
Lui, il est resté en observation, il pensait quelques minutes.
D'accord.
Uniquement. Bon, il a dû être certainement tétanisé, mais en tout cas, il a observé le phénomène.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en a découlé de ce cas de Trans-en-Provence?
Alors, justement, je vais reprendre directement les propos de Bougnas qu'il avait donné lors d'un reportage. C'est vraiment l'avis du spécialiste.
Ouais, ouais.
Donc, je cite. Ce que je peux affirmer, c'est que cela valait la peine de faire cette étude, car d'une part, c'est scientifiquement intéressant. Cela fait faire des progrès analytiques, conceptuels, même dans le domaine de la toxicologie. Et puis maintenant, il y a quelque chose de plus, c'est que le phénomène OVNI apparaît comme digne d'intérêt. Donc là, c'est quand même, aux yeux d'un scientifique, d'un biochimiste, le cas qui pourrait intéresser la communauté scientifique, en fait. On a des traces qui corroborent un témoignage.
C'est assez marrant parce que quand on parle de communauté scientifique, on s'aperçoit qu'il y a d'un côté ceux qui sont ouverts à ce phénomène OVNI et puis ceux qui sont complètement obtus, qui veulent rien entendre.
Ça peut se comprendre. Ceux qui en ont trop parlé, comme Michel Bougnas, Jean-Pierre Petit et d'autres, ont été mis sur le bûcher. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir. C'est-à-dire ils ont été mis au banc et leurs crédits ont été coupés. Et c'est leur carrière qui est en jeu, en fait.
Et alors, quand on dit que c'est la carrière qui est en jeu, c'est pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions. Soit parce qu'on peut les traiter d'hérétiques en disant c'est tous des fous, ils inventent. Ou alors, soit parce qu'ils parlent sur un sujet qu'on veut cacher et qu'on veut taire.
C'est un sujet tabou, surtout. Ça voudrait dire que si le phénomène OVNI était extraterrestre, pour un scientifique, c'est catastrophique. Ça remet en cause toutes vos connaissances. Donc, en fait, vous dites à un scientifique que tout ce qu'il a appris depuis sa jeunesse en faculté et son doctorat, ça ne vaut pas grand-chose au final.
Oui, mais Mathieu, tu sais bien que toutes les avancées scientifiques, même médicales, elles remettent en cause ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Donc c'est là où les scientifiques, on a la sensation aujourd'hui que finalement le monde scientifique n'a pas envie d'avancer, veut rester sur ses dogmes.
C'est exactement ça, c'est le mot dogme, c'est vraiment, la science est une forme de religion.
C'est ça. Et si jamais tu vas à l'encontre de cette religion, on te brûle.
Voilà, c'est l'équivalent d'un hérétique. Mmh. Exactement, je pense que c'est la bonne image qu'il faut avoir du monde scientifique actuel.
Mmh. Alors toi, tu rencontres des scientifiques quand même dans ton association. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ceux qui sont ouverts à ça, ils disent quoi en fait de ce phénomène OVNI?
Alors pour certains, c'est clairement, ils ont clairement une origine extraterrestre, parce que ce serait la solution la plus logique et la plus simple. Mmh. Après, il y a toujours une pointe de scepticisme, c'est normal et il faut être sceptique. Mais après, bon, voilà, c'est une affaire de conviction. Je veux dire, il n'y a pas de preuves. Ça, parler de preuves, c'est compliqué pour le phénomène OVNI. On peut parler de présomption. C'est-à-dire, on détecte qu'un échantillon végétal a des caractéristiques particulières, un fort traumatisme. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une preuve ou comme une simple présomption qu'il y a bien eu quelque chose qui correspond au témoignage?
On voit bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que moi je dis il y a deux assiettes l'une sur l'autre qui atterrissent dans mon jardin. Bon, déjà c'est assez gros quand même. C'est-à-dire que la soupe est bonne hein, quand même, parce que pour avoir des grosses assiettes comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et quand ces deux assiettes se tirent, les plantes perdent leur chlorophylle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors après c'est toujours pareil. Est-ce que je posais la même question à Joël Ménérien. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une arme développée par l'armée, une arme secrète française ou d'un autre pays, on ne sait jamais, qui pourra avoir des capacités.
Je pars du principe que si on a une hypothèse, il faut aller jusqu'au bout, il faut carrément modéliser, effectuer des modélisations.
Ouais.
Par exemple, je peux vous citer trois cas, c'est-à-dire qui nous intéressent, c'est-à-dire quand Michel Bougnas et Jean-Pierre Petit avaient eu connaissance des résultats, quand Jean-Pierre Petit avait eu connaissance des résultats du cas de Trans-en-Provence, avec Michel Bougnas, ils avaient démarché à l'époque auprès du GEPAN pour monter une expérience. Et en fait, cette expérience avait pour but de savoir si le phénomène OVNI n'avait pas, enfin, si ce phénomène pouvait être reproduit en laboratoire à l'aide de micro-ondes pulsées. Ça aurait pu être intéressant, modéliser.
Bien sûr.
Ouais,
bien sûr.
C'est-à-dire prendre des luzernes, les soumettre au micro-ondes et comparer les résultats.
Bien sûr.
La réponse du GEPAN, c'était « C'est impossible car vous ne faites pas partie du CNES ». c'est une réponse un peu rapide, mais au final, l'expérience n'a pas eu lieu et on ne saura peut-être jamais si de simples micro-ondes pourraient altérer les végétaux, comme dans le cas de Trans-en-Provence. Mmh. Après, on peut, nous, en UFO-Science, on est allé imaginer autre chose. Mmh. Si, par exemple, ça ne pouvait pas être dû à la foudre.
Oui, possible.
Voilà, on s'est demandé à une époque, est-ce qu'un impact de foudre peut être à l'origine des traumatismes? Mmh. Donc ça c'est facile, il suffirait de savoir où la foudre a frappé et intervenir comme ça avait pu être fait à l'époque avec des protocoles précis et ensuite faire des comparaisons.
Ouais. Donc là il faudrait quand même des budgets quand même pour faire ces expériences.
Il y aurait un certain budget, mais il serait pas si énorme que ça. C'est-à-dire que en 2008, un ancien de l'association UFO Science avait reproduit pour quelques milliers d'euros les techniques mises en œuvre par Michel Bounias pour faire ses analyses.
Alors le problème, c'est que tu dis quelques milliers d'euros, et c'est vrai que Xavier Passot, le responsable du GEPAN qui était venu ici il y a à peu près un mois, nous disait que pour beaucoup, alors qu'on est en crise, alors que les temps sont difficiles, même ces quelques milliers d'euros de dépensés ne méritent pas de l'être. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours ceux qui, comme toi, hein, qui cherchent, comme moi, qui ont envie de savoir, d'avancer, et puis il y a quand même toute une catégorie de gens qui disent, mais bon, pour le moment, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas danger, donc c'est peut-être dommage de dépenser autant d'argent, même si peu, hein, pour cela. Tu comprends ce point de vue-là ou pas?
Oui, mais en même temps, je crois me rappeler que dans l'émission, Xavier Passot n'a pas souhaité donner le budget réel annuel du GIPAN.
Ouais,
il
mais
pas donné.
De toute façon, tout le monde le dit, c'est à peu près 150 ou 200 000 euros, donc c'est 4 personnes de toute façon.
C'est pas énorme.
Voilà, c'est pas énorme. Je trouve que c'est énorme, parce qu'avec nous, avec 3 000 euros, on fait des expériences de magnéto-hydrodynamique. Ouais. Quelques milliers d'euros, on remet en place tout un protocole de mesure d'échantillons végétaux. Ouais. Pour 300 euros, on arrive à diffuser 1 000 bonnettes à travers toute la France. Ouais. Donc, avec 150 000 euros, on pourrait faire des choses fantastiques.
Attention, ils ont des salaires dans les 150 000 euros.
Oui, voilà, c'est...
Moi qui suis chef d'entreprise, je sais ce que c'est un salaire. Hein. Je sais ce que tu payes à ton employé, je sais ce que ça te coûte. Hein. Donc, voilà.
Mais je pense qu'il restera quand même une belle somme.
Bon. En tout cas, on va marquer une pause musicale, Mathieu. On se retrouve dans un instant. Mathieu Hader est mon invité jusqu'à 22h. Il est du Faux Science. On continue à parler d'OVNI. Elliot, réveille-toi.
Je vais essayer.
Alors, les réseaux sociaux.
On a une question pour savoir si les gendarmes connaissent le protocole du Faux Science.
Alors, tu dormais parce que j'ai posé la question il y a 5 minutes.
Enfin,
c'est pas grave. Mathieu, alors voilà un extraterrestre, il est avec nous. Hein, donc il s'appelle Elliot. Hein, je peux te l'envoyer
c'est
à
moi,
Toulouse.
Désolé.
On l'avait dit, c'est un cagot.
Oui. Oh non. Ah, les cagots. C'était une très belle émission d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur iTunes en podcast gratuitement. C'est avec Marie Rocard. En attendant d'aller écouter ces podcasts, un peu de musique avec mon Mathieu.
Avec 113 Jackpot 2000. Alors un petit conseil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Facebook de l'émission pour jeter un coup d'œil à la vidéo de l'équipe en backstage, histoire de voir comment ça se passe avant l'émission. Vous allez voir, c'est super sympa et n'hésitez pas à la partager, surtout c'est sur Bob vous dit toute la vérité sur Ado.
Ce qu'il aime, l'écoute pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur, l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado.
Et nous avons réouvert ce soir le dossier OVNI. Nous parlons donc de ces objets volants non identifiés ou de ces phénomènes aéronautiques non identifiés avec Mathieu Hader de UFO Science. Mathieu, avant d'évoquer le cas des Amarantes en 82, parce que tu voulais qu'on en parle ce soir, on va évoquer la détection acoustique également, juste avant la pause pub. Mesurer le son, c'est important parce qu'on parle souvent de non-son, en fait, quand on a une apparition d'OVNI.
Oui, mais il y a énormément de cas aussi où en fait on fait référence à un son. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du cas de Trans-en-Provence. Ouais. Et effectivement, Roubeton Nicolai avait entendu un bruit qui ressemblait, comme j'avais dit, à une sorte de souffle assez devant, assez fort, aigu. Ouais. Après, vous en avez de plus récents. Par exemple, un cas qui pourrait t'intéresser, c'est le cas de Tournefeuille.
À côté de Toulouse.
Côté de Toulouse, voilà. Où là, un témoin avait vu un objet stationnaire pendant 30 minutes avec un gros sifflement.
D'accord.
Donc en fait le son étant quelque chose qu'on peut mesurer avec des appareils comme une caméra, un dictaphone, lecteur MP3, il faut le collecter et l'analyser. Je veux dire, si le son est là, pourquoi s'en passer?
Bien sûr.
Donc on s'est demandé, nous, est-ce que grâce au microphone qu'on peut trouver dans le commerce, qu'on a tous sur soi, qui ne sont pas des microphones de qualité professionnelle, si on pouvait analyser correctement le son, et la réponse est oui. J'ai fait un test à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Ouais.
avec un simple microphone d'appareil photo, j'ai mesuré le son d'un avion en phase d'atterrissage. Où j'avais le, grâce à l'effet Doppler, c'est-à-dire quand l'avion se rapproche de vous, vous percevez un son aigu. Quand il passe devant vous, vous avez l'impression que le son est devenu plus grave. Et quand l'avion s'éloigne, le son s'aggrave encore plus. En fait, grâce à ce phénomène d'effet Doppler, grâce à un logiciel de traitement audio, on en trouve gratuitement sur Internet très facilement, et grâce à un peu de géométrie, on arrive à mesurer la vitesse d'un avion avec une erreur de 3%.
D'accord.
Manuellement. Alors, si on mettait un microphone sur une station de détection pour automatiser les calculs, il y a de fortes chances qu'on aurait déjà bien plus de données parce qu'on aurait là les accélérations.
Oui, bien sûr.
Et on augmenterait certainement la précision.
Ouais, ce serait bien ça. Et pourquoi on ne le fait pas? Encore une fois, ça ne demande pas beaucoup d'argent.
Alors nous on le fait, c'est en cours.
Ouais, c'est ça.
Mais après je sais pas, est-ce que les stations de détection qui sont en Norvège et qui appartiennent au GIPAN, qui coûtent plusieurs milliers d'euros, sont équipées de microphones, je sais pas.
D'accord.
On n'a pas trop d'infos dessus.
Bon. Mathieu, on marque une pause. C'est notre OVNI à nous. On revient dans un instant. Il faut gagner notre vie, remplir le frigidaire, passer l'aspirateur, nettoyer les carreaux. C'est ça.
Et on l'entend aussi.
C'est sale, les garçons. Vous n'avez pas fait les vitres aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve dans un instant. Mathieu Adair de UFO Science est avec moi. On parle de ces objets volants non identifiés, du phénomène OVNI. Jusqu'à 22h, on attaquera bien sûr le cas des Amarantes en 1982.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. La vérité. 21h minuit sur Ado.
Une émission unique en France à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Et tout à l'heure, du côté de 22h, j'aurai le plaisir de recevoir Thierry Jamin pour évoquer le trésor des Incas. On va partir loin, très loin, pour un voyage au cœur de l'étrange, de l'inexpliqué, du mystère.
Bob vous dit toute la vérité.
Un talk show à ne pas mettre entre toutes les oreilles.
21h minuit sur Ado.
Finalement, on répète tout ce que je dis. Mathieu, Elliot répète ce que je dis. Le jingle répète ce que je dis. Finalement,
parce qu'il est fort.
Personne suit, en fait. C'est toi aussi, tu dors, en fait. Ah là là, Mathieu Adair est avec moi de UFO Science. Mathieu, je suis pas aidé. Je suis désolé, Mathieu.
Je suis pas aidé.
Alors, on va évoquer le cas de 1982, les Amarantes. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle aussi du travail que tu fais sur le net, sur les forums, sur les réseaux sociaux, pour expliquer qu'en fait, l'ufologie actuelle, elle n'est que trop virtuelle.
Oui, exactement. C'est-à-dire que vous avez énormément de forums, énormément de débats, énormément de témoins qui parlent de nouveaux cas, mais après, quand il s'agit d'agir, le nombre de personnes qui répondent à cet appel est infime. C'est-à-dire, si je demande à quelqu'un d'intervenir sur quelque chose, faire un petit travail qui dure 2-3 minutes, vous aurez une personne sur 3000 qui réagira, malheureusement. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas forcément envie d'agir, mais ils le feront peut-être plus tard. Mais bon, il faut agir maintenant. Je veux dire, même au niveau de la définition du mot ufologie, j'aime pas beaucoup ce mot ufologie. Parce que c'est vraiment, bien qu'il ait une définition, c'est-à-dire c'est une discipline qui étudie le phénomène OVNI, je suis pas sûr que le laborantin qui va étudier les végétaux dans son laboratoire va aimer qu'on lui pose l'étiquette d'ufologue. Et il dira, je suis biochimiste. Si vous analysez une photo dans un laboratoire, il vous dira, je ne fais pas de l'ufologie, je fais de la spectroscopie. Donc, voilà, je veux dire, l'ufologie, je préfère parler de l'ufosphère, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du phénomène OVNI, et de parler d'enquête plutôt que d'ufologie.
Bah, en même temps, il faut bien donner un terme quand même, Mathieu.
Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être typiquement français de poser une étiquette.
Oui, je sais bien, il faut des cases. Nous, on adore les cases. C'est l'étiquette. Bah oui, on est le pays des étiquettes et du fromage, il faut le rappeler. Donc, on aime ça. Donc, tu dirais que l'ufologie de papy, il faut la mettre un peu au rencard aujourd'hui?
Oui, ça c'est une expression que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un cas pour intervenir sur le terrain, vous n'arrivez plus avec un calepin, un stylo, une loupe et un petit appareil photo, et vous mettez à questionner le témoin, c'est fini. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, avec Internet, il est possible d'acheter beaucoup de matériel à peu de frais, du moins pour une association, d'acheter du matériel de prélèvement, de se mettre en, il y a une possibilité de se mettre en contact avec des laboratoires en France qui seraient prêts à prendre en charge les échantillons que vous pourriez prélever. Il y a possibilité de former des gens directement, c'est-à-dire ça on a l'intention de le faire, c'est-à-dire sensibiliser déjà le grand public sur ce genre de cas, ce qu'on fait dans votre émission d'ailleurs, c'est-à-dire montrer que dans un cas d'atterrissage, il est possible de mettre en place des protocoles et de faire tout un panel d'analyse, et ensuite sensibiliser plus en profondeur l'UFOsphère, carrément en proposant des formations à des groupes indépendants. Ça, on aurait l'intention de le faire.
Il y a des gens qui viennent vous voir, vous, à UFO Science, pour intégrer l'association ou pour apprendre à entre guillemets, chasser l'OVNI?
On est contacté tous les jours, oui, pour avoir, notamment par rapport à la prise de photos, savoir comment il faut procéder. Après, quand il y a un cas d'atterrissage ou d'un phénomène qui aurait laissé des traces, malheureusement, on n'est pas contacté, alors que il y a des choses qu'on pourrait faire. Vous avez un cas récent, c'est le cas de Grolet dans le Tarn, en 2012. Apparemment, il y aurait eu des traces dans un champ, bon, qui, avec le recul, n'ont peut-être rien à voir avec un phénomène non identifié. Mais on n'a pas été contacté pour intervenir sur le site. On a été informé de ce cas qu'un mois et demi après. Or, en un mois et demi, vous avez eu le propriétaire qui a piétiné le terrain, tous les curieux qui sont venus qui ont piétiné le terrain, et qui ont sûrement emmené énormément de polluants sous leur semelle de chaussures.
Ouais, c'est exactement la même chose que sur une scène de crime, quoi. Faut pas y aller comme ça, quoi.
Tout à fait. Il faut baliser le terrain. Il faut expliquer aux gens pourquoi ne pas y aller, et attendre une équipe d'intervention qualifié.
Vous parlez entre, j'imagine que vous n'êtes pas la seule association UFO Science du côté de Toulouse, est-ce que vous parlez entre ufologues?
On se parle, c'est-à-dire on s'entraide, c'est-à-dire que...
C'est la première fois que j'entends ce mot, s'entraide, entre ufologues. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu la guerre.
Oui, alors, les guerres, on y est aussi mêlés, malheureusement. Voilà, il faut dire ce qui est. Quand on est critiqué, il faut contre-argumenter en permanence. Mais l'entraide peut être très simple. Par exemple, récemment, on a envoyé, on a offert 50 réseaux de diffraction à un repas ufologique du côté de Metz. Ils ont diffusé les réseaux de diffraction, ils ont expliqué comment ça marchait avec leur mode d'emploi, très bien. Voilà, un truc simple à faire, parler des réseaux, les offrir, voilà, c'est très simple et les gens sont contents.
Alors je rappelle que ces réseaux de diffraction, vous les offrez sur ton site, en fait sur le site de l'ASSOS, UFO Science, on met son adresse, et en tout cas il faut envoyer une enveloppe timbrée à l'adresse de l'ASSOS avec une petite lettre et puis vous renvoyez tout le tour,
En fait le plus simple c'est que les gens nous contactent par email, on leur donne une adresse.
Voilà.
Et ils enverront leur enveloppe pré-timbrée à cette adresse.
Ah, génial.
Pas au siège de l'association.
Bon. Eh ben super, en tout cas c'est gratuit.
Les envahisseurs, des êtres inconnus venus d'une planète en train de mourir. Leur destination, la Terre. Leur dessein, en faire leur univers.
Alors ce soir, jusqu'à 22h, nous parlons des objets volants non identifiés ou des phénomènes aéronautiques non identifiés avec Mathieu Adair. Mathieu, je voulais qu'on parle des Amarantes 1982. Voilà un cas aussi intéressant.
C'est un cas intéressant parce que le témoin est un biologiste du CNRS. Ah. Et c'était aussi un jardinier amateur maniaque. Et là, apparemment, il a témoigné d'un engin qui s'était posé dans son jardin. Il faut savoir que son jardin fait 7 mètres sur 5, c'est-à-dire tout petit.
Ouais, d'accord, c'est un jardinier.
Un petit jardin.
Un peu de fleurs. Oui, c'est ça.
Mais l'engin est venu là, très précisément, et il est resté stationnaire pendant 20 minutes au-dessus du sol. Alors c'est la description presque classique d'un OVNI, c'est-à-dire bleuté, pas de traces d'usinage, silencieux.
Mais pas gros alors, parce que 7 mètres sur 5 le jardin, ça veut dire que l'engin n'était pas très gros.
Voilà, 1,5 m de diamètre.
C'est vraiment pas beaucoup. Les extraterrestres intérieurs sont tout petits.
Ah, peut-être. Mais en 20 minutes, il a eu le temps de l'observer. Et il n'y avait pas un seul brin de vent. Et au moment de ce qu'on pourrait appeler comme le décollage de l'engin, il remarque que les herbes qui étaient situées directement sous l'objet se sont redressées. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être un phénomène électrostatique qui est intervenu. Donc les végétaux avaient peut-être subi un traumatisme. Or, ce qu'il remarque, c'est qu'il avait des amarantes à moins d'un mètre de l'engin qui s'étaient desséchées, alors que leurs racines étaient intactes.
D'accord.
Donc là, la gendarmerie intervient, le GEPAN en particulier, et là, ils prélèvent des échantillons. Or, pour conserver ces échantillons, ils les mettront dans un bac à légumes.
D'accord.
Ça peut faire rigoler, mais c'est noté dans la note technique qu'on trouvait sur le site du GEPAM.
Oui, mais ils sont pas forcément équipés, les mecs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait mettre quoi dans...
Je vous dirais, ils sont peut-être pas équipés, mais paradoxalement, il y a eu deux séries de prélèvements qui ont été faits sur ce cas. Le premier, c'est ceux dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qui ont été conservés dans un bac à légumes, alors que la seconde série a été conservée dans de l'azote liquide.
D'accord, c'est pas pareil.
Donc là, ils ont été bien conservés.
Ouais, bien sûr.
Or, les analyses ont été faites sur la première série. Parce que c'était les premiers prélèvements qui avaient été faits. Donc ces échantillons qui étaient dans un bac à légumes ont été acheminés très lentement jusqu'à Toulouse, à l'université Paul Sabatier.
D'accord.
Et sont arrivés abîmés, presque inexploitables.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a une vraie désinformation? C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on découvre les choses?
Oh, peut-être pas, peut-être simplement qu'on a un manque de compétences à ce moment-là.
Oui, mais si on décide de mettre dans de l'azote liquide des plantes et qu'on prend la décision d'acheminer à 900 km de là ou 600 km de là des plantes qui ont été conservées dans un bac à légumes, bon, il y a une vraie volonté de cacher des choses quand même.
Je ne sais pas, parce que dans le rapport, c'est le choix des deux biochimistes qui sont intervenus sur les échantillons. Après, je ne suis pas biochimiste, donc je n'ai pas la prétention de savoir. Dans leur propre protocole, quels sont les échantillons qu'il convient d'analyser en premier.
Oui, en même temps, c'est vrai, vous êtes, comme moi, je ne suis pas biochimiste.
Donc voilà, donc j'ai des connaissances en biochimie, mais je suis, j'ai plus d'expertise sur le protocole en lui-même.
Ouais, chacun sa compétence.
Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ces échantillons, c'est-à-dire si demain, une association ufologique va sur le terrain, prélève des échantillons correctement... Le conditionnement derrière sera ultra important, c'est-à-dire il faudra au moins les conserver à moins de 80 degrés, et ça on peut le faire avec de la glace carbonique qu'on peut acheter dans le commerce, dans un caisson adapté, et prendre contact avec un laboratoire certifié. Et ça c'est faisable. J'avais contacté un laboratoire sur Marseille, dans une université, et très de suite ils m'ont dit « Ok, très bien, si vous avez des échantillons, vous nous dites quoi analyser ?» Et on fait un contrat et on vous le fait.
D'accord.
Sans aucun problème.
D'accord.
Donc ce sont des techniques qui sont standards, les études d'échantillons.
Et ça vaut, ça vaut cher ou pas de faire ce genre d'analyse?
Alors, j'ai pas fait la démarche après jusqu'à faire un devis.
D'accord. Okay.
Mais sachant que nous on a pu reproduire ce type de méthode pour quelques milliers d'euros, je pense que ça ne va pas aller aussi haut. Je sais pas.
D'accord. Bon,
mais dernière chose importante, quand bien même vous auriez des résultats, c'est-à-dire le laboratoire vous donnait des taux de pigments dans les échantillons, il faut impérativement un spécialiste derrière pour interpréter les résultats, et ce spécialiste devra se mouiller. C'est-à-dire que c'est pas moi en tant que technicien aéronautique sous anonymat qui vais prétendre pouvoir interpréter les résultats.
Ouais, c'est ça.
Il faut vraiment qu'il y ait un poids, quelqu'un derrière qui soit spécialiste, reconnu dans son domaine. Qui donne ses conclusions.
Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine que ça doit être très très difficile de trouver quelqu'un qui va se mouiller, quoi.
Très difficile. Ouais, en 2009, on en a cherché, quelques-uns l'avaient contacté, on n'a jamais eu de réponse. Ce qui est compréhensible, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils mettent en jeu leur carrière.
Non, parce qu'en fait, ils ont peur soit de dénoncer quelque chose qu'on veut cacher, soit d'être pris pour des fous, tout simplement, de dire arrête avec tes conneries, de deviner, etc. Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a plein de gens qui disent mais arrêtez avec vos conneries, ça n'existe pas, etc. Il y a des gens qui, voilà, on leur a dit quelque chose depuis tout petit, ils ne veulent pas en déroger, et c'est comme ça.
Ah, c'est la peur, peut-être. La peur de voir tous ces acquis disparaître, ou la peur du phénomène en lui-même.
Alors,
la Terre n'est plus le centre de l'univers.
Moi, en tant que curieux, et je me pose cette question depuis que Xavier est passé ici, et qui m'a dit qu'en fait, il y avait aucun rapport entre le GEPAN et l'armée. Moi, ça m'a complètement bluffé, parce que j'ai l'impression quand même que ce qui est survolé, c'est le ciel. Le ciel, il est normalement scruté par l'armée française, et on décide de mettre à côté de ça un organisme faisant partie du CNES, qui s'appelle le GEPAN, qui est censé récolter les témoignages de ces apparitions d'OVNI. Et alors, si l'armée voit des choses, parce que les pilotes sont quand même tous les jours dans le ciel, donc ils sont confrontés, c'est les premiers à être confrontés à tout cela, eh bien, ils ne font pas cas de leurs apparitions, de leurs témoignages au GEPAN. Ça m'a scotché.
Alors déjà, pour le coup de l'armée, ça m'étonne parce que dans le comité, dans le rapport du comité de pilotage de 2007, on trouve ça aussi du GIP1, on voit qu'ils sont en contrat avec l'armée.
Ah ben moi je peux te dire ici, il me l'a dit ouvertement, je pourrais ressortir l'extrait, ils n'ont pas de rapport. Hein.
Oh, mais moi je peux te sortir la presse écrite, ce qui est encore mieux.
Mais je peux pas te dire mieux que d'avoir reçu le responsable qui me dit ça. Bon, après, moi je donne des interviews souvent entre ce que je dis et ce qui est écrit. Tu sais, il y a des choses différentes. Donc peut-être que ce qu'il a lu. En tout cas, là, il était là. Je lui ai posé cette question. Il m'a dit non. Ce qui est incroyable, c'est que l'armée me donne pas ses rapports.
Bon, en même temps, après, qu'ils soient en contrat, mais que derrière il y a un problème au niveau de la transmission d'informations.
Ah voilà. Voilà. Donc ça, c'est autre chose.
Peut-être.
Alors peut-être après, qu'ils sont en contrat, mais l'armée reste la muette. Hein.
Voilà, tout à fait, peut-être. Après, il faut savoir quand même que le président du GIPAN, c'est Issillard, et Issillard, c'est l'ancien directeur de la DGA, la Direction Générale à l'Armement.
Oui, c'est ça.
Il y a l'armée quand même.
D'accord. Donc en fait, s'il y a quelque chose de très chaud, à mon avis, très sensible, parce qu'on a la sensation, moi en tant que, moi je suis un simple citoyen, mais j'ai la sensation qu'en fait, on nous a mis devant les yeux le GIPAN pour amuser la galerie et le public, voilà, et que derrière, l'armée doit faire le boulot.
Peut-être que c'est l'organisme civil pour montrer au public, vous voyez, nous faisons quelque chose, il y a un phénomène, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos deux oreilles, nous nous en occupons. Quoi.
Mais en même temps, Xavier Passot me l'avait dit, hein, il m'avait dit, parce que je lui avais demandé, est-ce que ça avait été, est-ce qu'il y avait eu pour projet de fermer le GIPAN, etc. Ça avait été évoqué à une période et finalement ça a été gardé parce que les journalistes ont besoin d'avoir une cellule vers laquelle se tourner s'il y a une apparition. Et puis parce que le public est intéressé par ce phénomène. Et d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, j'avais posté un sondage ici même sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité pour savoir quel est le thème que les auditeurs préfèrent. Et les ovnis est arrivé en premier. Ça veut bien dire que ce phénomène intéresse énormément.
Oui, tout à fait. On le voit tous les jours. Sur Internet, il suffit de taper OVNI, on a des témoignages qui tombent sans arrêt.
Voilà. Donc, l'idée de peut-être de se dire que finalement, le GIPAN, il est là pour nous, voilà, simple mortel, c'est pas con, hein. Et puis en même temps, ils n'ont que les moyens qu'on veut bien leur donner. Claude Lavatte nous a appelé tout à l'heure, que tu dois connaître, en tout cas, de nom, au moins.
De nom.
Voilà. Oui. Il nous a dit, j'ai un vrai chiffre concernant le budget du GIPAN, c'est 140 000 euros. C'est vrai qu'on va pas très très loin. Alors c'est une somme pour beaucoup, mais quand on a déjà 4 employés, une infrastructure, etc., ça part très très vite. Donc on a la sensation, on voit bien que à 150 000 euros, c'est ce que me disait Xavier Passos, il me dit, moi si je demande pas à des ufologues privés, des associations de m'aider, je peux pas déclencher une enquête comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant que je déclenche une enquête, il faut avoir des tonnes et des tonnes de points ou de réponses à mes questions, parce qu'ils ont un protocole, ils ont des questions, tu le sais bien. À laquelle il faut répondre pour déclencher l'enquête.
Oui, tout à fait. De toute façon, sachant qu'ils sont quatre, ils ne peuvent pas couvrir tout le
bien
territoire
sûr.
Et intervenir. Ils sont obligés d'avoir des agents de terrain pour y aller à leur place et leur faire un rapport. Ça se comprend tout à fait.
Bon. Et toi, avec UFO Science, vous bossez un peu pour eux ou pas,
hein? Non, on ne travaille pas pour eux. On est 100% indépendants.
D'accord. Ok. Bon. Écoute Mathieu, on va être obligé de se quitter parce qu'on arrive au terme de cette conversation. J'ai été ravi une nouvelle fois d'en savoir plus sur vos techniques, sur votre point de vue à UFO Science, sur les objets volants non identifiés. J'espère que tu auras rempli ta mission auprès de tes copains qui travaillent dans l'aéronautique et qui sont peut-être ou pas intéressés par ce phénomène OVNI. À très bientôt Mathieu.
Merci de m'avoir reçu à nouveau, et c'est bien qu'il y ait des émissions comme ça pour qu'on puisse débattre et parler.
À très bientôt, ciao.
Retrouve Bob sur Ado
et aussi sur le net. Sur le net.
En podcast totalement gratuit sur iTunes.
Oui, mesdames et messieurs.
Wow.
C'est gratuit, iTunes. C'est vachement bien. Je suis très, très content. Alors, il faut savoir qu'on est premier, hein. Alors, nous, on est classé dans religion et spiritualité sur iTunes.
Why not?
Hein, moi, ça me gêne pas. Hein, j'en veux à personne. Donc, en tout cas, on arrive premier devant même les podcasts du pape, hein, de ses discours, etc. Donc, on est très, très content. Je viens d'avoir, en fait, les scores à l'instant. Voilà. T'es numéro un des religions. Un peu le pape en podcast. Voilà. T'es je suis un peu le pape du
Bob
podcast.
Premier.
Oui,
en fait.
Ce que j'ai Bob premier. Bon, en tout cas, merci d'aller sur iTunes et de les télécharger. Vous êtes nombreux et des milliers chaque jour à le faire. Surtout de les liker, de donner vos avis. Ça me fait très plaisir. Dans un instant, Thierry Jamin pour le Trésor des Incas. Bon, Mathieu, avant cela, on écoute un peu de musique.
Ouais, là on va faire un petit retour dans le début des années 2000 avec Rof et Kalia pour Qui est l'exemple, c'est sur Ado et dans Bob vous dit toute la vérité jusqu'à minuit.
Ouais, toi qui m'écoutes là.
Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur adofm.fr et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.